France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. La pollution est une question qui soucie de nombreux acteurs des Pyrénées-Atlantiques où nous séjournons cette semaine. À Biarritz, c'est l'association Ressac qui prend en main cet éternel problème des déchets plastiques, marins, ménagers ou industriels. Ici, on ne fait pas que collecter les résidus et déchets, mais on les traite, on les transforme. Et puis, créer un webzine d'information musicale n'est pas une partie gagnée dans un secteur soumis à une forte concurrence. Pourtant, dans le Val-d'Oise, une équipe de photographes et de rédacteurs s'est lancée dans la création de Mellow Live, webzine qui parle de la musique sous forme de reportages photos réalisés durant les concerts, d'interviews et de chroniques. Émilie Susano sera à ce sujet notre deuxième interlocutrice.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Lisa Tomalak, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la charge, la lourde charge de sensibiliser, de communiquer pour l'association Ressac créée en août 2019 à Biarritz. Vous êtes graphiste. Qu'est-ce qui vous a porté à cofonder, parce que vous êtes à l'origine de cette association?
Oui, alors je suis à l'origine et on est 6 à l'origine de cette association qui s'appelle Ressac. On est des habitants, en fait, avant d'avoir nos métiers respectifs, on est tout simplement des habitants qui avons fait le constat qu'il y avait énormément de déchets plastiques aujourd'hui dans l'environnement, sur nos plages, et pas que, hein, on parle des déchetteries et du devenir de nos déchets plastiques beaucoup en ce moment dans l'actualité. Et c'est vrai que c'est une envie d'agir qui nous a poussé à monter ce collectif ensemble pour trouver des solutions concernant les déchets plastiques qui finissent aujourd'hui enfouis ou incinérés.
Et vous en sauvez combien de l'incinération et de la poubelle ?
Là, on est sur une tonne l'année dernière qu'on a pu sauver et notre objectif c'est d'arriver entre 5 et 10 tonnes par an.
Par le passé, on a vu plusieurs expériences de traitement des déchets plastiques. Il y a un souci, c'est que très souvent on a besoin de déchets propres, ça implique un tri et donc certains plastiques ne sont pas recyclables. Est-ce que vous avez trouvé une solution à ce problème ?
C'est vrai qu'on est une petite structure, donc on va se focaliser aujourd'hui sur deux familles de plastiques qu'on va recycler en interne chez nous. Donc il va y avoir le polypropylène et le polyéthylène. Donc voilà, ce sont deux familles qu'on va traiter, qui se recyclent assez bien. Et c'est vrai qu'on se concentre sur ces plastiques-là, on pourrait en recycler d'autres. C'est vrai qu'on se les garde un petit peu pour plus tard, parce que la tâche est immense.
Bah oui.
Et c'est vrai que voilà, c'est le choix qu'on a fait. Et concernant la collecte et le tri, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on fait du tri nous-mêmes à l'échelle interne de l'association. On demande aussi à nos partenaires d'effectuer un pré-tri et de pouvoir à minima rincer les déchets plastiques qu'ils nous fournissent, s'ils sont éventuellement... etc. Voilà, c'est quelque chose qu'on demande à nos partenaires et qu'ils sont jusqu'à aujourd'hui très heureux de faire pour nous aider dans cette tâche de recyclage.
Et dans le traitement de ces plastiques, vous utilisez une méthode particulière ? Elle est secrète ou elle est connue ?
Alors, elle n'est pas du tout secrète. En fait, on fait partie d'un mouvement international qui s'appelle Precious Plastic, qui est né aux Pays-Bas en 2013. Et donc, c'est une communauté aujourd'hui qui regroupe un nombre très grand d'ateliers. Donc, en France, on a à peu près une vingtaine de structures. Et en fait, c'est un homme qui a mis au point le plan des machines de recyclage version miniature, je dirais, qu'on utilise nous aujourd'hui et qui sont utilisées par les membres du réseau. Donc, c'est en open source sur Internet, en libre accès et tout le monde... peut s'approprier les plans de ces machines et commencer à recycler à son échelle.
Et vous avez des designers dans votre équipe parce qu'une fois broyé, le plastique est transformé pour créer de nouveaux objets.
Oui, c'est ça exactement. On a des designers, nous, dans l'équipe et c'est vrai qu'on aime bien aussi s'entourer d'acteurs locaux avec qui on travaille sur du design de mobilier, de l'agencement, pour des projets notamment un peu plus importants de création sur mesure. Donc on le fait en interne et on aime bien aussi s'entourer d'autres partenaires dans cette tâche-là.
Et où peut-on trouver les objets que vous fabriquez ?
Alors les objets qu'on fabrique nous-mêmes sont disponibles sur notre site internet, ressac.org, on a un onglet boutique.
Et vous faites du mobilier par exemple ?
Oui, c'est vrai qu'on s'est demandé ce que pouvaient devenir ces déchets plastiques dans leur deuxième, troisième, quatrième vie. Et c'est vrai que l'idée du mobilier et du matériau plastique recyclé nous paraissait pertinent puisque c'est vrai que le mobilier, c'est quelque chose qui a une durée de vie d'environ 20 à 30 ans, en tout cas chez les Français aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est durable et c'est vrai que la plaque de plastique recyclé, par exemple, qui fait partie de ce qu'on fabrique nous, c'est une plaque qui est donc un matériau qui peut s'utiliser de la même manière que le bois. Donc c'est un nouveau matériau à base de 100% de déchets plastiques et qui pourrait venir remplacer soit du plastique vierge, soit du bois ou d'autres types de matériaux.
Et vous avez créé déjà des emplois, vous allez continuer, j'imagine?
Oui, alors on a déjà créé 2 emplois en local et on espère continuer le développement et bien sûr avoir une petite équipe avec nous. Non pas qu'on ait une ambition immense à être une multinationale demain, c'est pas l'idée de la structure, mais voilà, on aimerait avoir un impact à l'échelle locale qui soit notable. Je pense qu'il l'est déjà, mais c'est vrai que les besoins sont tellement grands qu'on aimerait, effectivement agrandir l'équipe.
Vous disiez que vous collectiez du plastique avec des associations partenaires, des recycleries et des entreprises. Du côté entreprise, on accepte de collecter, de mettre de côté tous les déchets plastiques avant de vous les remettre?
Oui, aujourd'hui, vraiment, les entreprises, en tout cas avec lesquelles on travaille, acceptent de faire ce geste, de passer ce temps supplémentaire pour venir trier, pré-trier leurs déchets plastiques, parfois nous les amener au sein même de notre atelier. Je pense que aujourd'hui les enjeux sont de plus en plus connus. Les salariés de ces entreprises-là sont sensibles à nos actions et reconnaissent l'utilité et un petit peu l'urgence, je dirais. Donc en tout cas, oui, ce sont des personnes aujourd'hui qui s'engagent et qui acceptent de nous aider en faisant ces gestes-là.
Ressac s'écrit R-E-S-A-K et l'adresse est ressac.org. Merci beaucoup, Lisa.
Merci beaucoup à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Ne rien gâcher encore, mais cette fois au nom de l'alimentation, c'est l'objectif des Génies Verts, association constituée en 2019 à Bayonne et qui s'emploie à créer des jardins partagés collectifs, à créer aussi des événements, des conférences, des soirées, des repas et à favoriser le réemploi. On trouve l'ensemble des actions dans le Pays Basque et dans le sud des Landes. La dernière invention du collectif est le Récup Truck, qu'on présente comme un laboratoire mobile de cuisine, un lieu d'échange solidaire. Concrètement, ce camion, un peu différent des food trucks habituels, car il s'approvisionne des surplus des jardins, est un lieu de sociabilisation où chacun peut rencontrer d'autres personnes, apprendre à cuisiner ou apporter ses recettes qui sont réalisées avec les cuisinières pédagogues de l'association. Enfin, ce Récup Truck est solidaire puisqu'une partie des produits cuisinés est offerte aux épiceries solidaires. Il y a une page Facebook au nom de l'association et de ce camion un peu différent, Récup Truck 64. Et puis, comme nous sommes entre Béarn et Pays Basque avec les Pyrénées-Atlantiques, voici la création d'une plateforme de financement participatif qui soutient les projets du Pays Basque orientés vers la transition écologique, énergétique et sociale. Ça s'appelle Tchédéba ou Tchédébat, je ne sais pas comment on prononce exactement. Je fais pourtant des progrès en basque. Cette plateforme bilingue permet de créer une communauté d'acteurs locaux pour plus d'interactions et de coopération. Tchédébat.eus, vous allez trouver le lien à nos pages d'émission. Émilie Susanneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable administratif dans une PME du Val d'Oise.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes une passionnée de musique.
Depuis toute petite.
Oui. Mélo Live, c'est un webzine avec des reportages, des articles, beaucoup de reportages photos sur des concerts, des interviews d'artistes, de stars internationales ou de locales, Pete Doherty et San Severino, et puis aussi des découvertes. Vu aujourd'hui les difficultés de la presse musicale à exister, comment vous avez pu vous faire une petite place?
Eh bien, tout simplement parce qu'il y a quelques années de ça, on a su me donner ma chance. Et j'ai fait partie d'un webzine qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, le confinement, malheureusement, est arrivé. Et on s'est tous retrouvés dans la même galère, à ne plus avoir de concert, à ne plus aller en live, vraiment dans les salles de concert. Et aujourd'hui, on a réussi à se faire une place tout simplement parce que j'ai une équipe derrière qui est exceptionnelle. J'ai des photographes qui sont vraiment à un niveau, au top niveau. Et de par nos expériences à tous passées, on a pu justement se faire une petite place aujourd'hui. C'est la passion en fait qui a fait qu'aujourd'hui on existe.
Oui, une passion qui passe exclusivement, pour l'instant, peut-être que ça changera, je ne sais pas, par le bénévolat de 18 photographes, de 2 chroniqueurs qui alimentent régulièrement Mélo Live. Vous voulez en rester à ce statut?
Ah non, l'objectif pour Mello Live, c'est d'avoir de plus en plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, puisque c'est ça qui va nous faire grandir et faire grandir notre notoriété.
Pardon, vous en avez combien actuellement, Émilie ?
Alors, sur Facebook, on en a un petit peu plus de 400.
Demain, 4000 et après-demain, 40 000.
J'aimerais beaucoup. Franchement, ce serait exceptionnel. Ce serait vraiment, vraiment top. Ce qui nous permettrait d'avoir plus de crédibilité face, justement, aux gros organisateurs de concerts qui, malheureusement aujourd'hui, privilégient des webzines qui sont un peu plus gros que nous pour couvrir leurs concerts.
Vous apportez un service gratuit parce que autant le responsable de salle, les organisateurs des concerts que les artistes peuvent bénéficier du support média que vous leur proposez.
C'est justement le but.
Mais les professionnels ne réagissent pas nécessairement très positivement, normalement.
Dans ce milieu-là, c'est un petit peu compliqué, effectivement, par rapport aux agences de presse et par rapport aux gros tourneurs. L'exemple même, c'est que lorsque nous accédons à un concert, lorsque nous avons l'autorisation de photographier en concert, en général, on n'a que quelques titres, voire quelques minutes, pour pouvoir profiter de l'événement et pouvoir donner aux gens qui vont venir voir sur le site Mello Live l'envie de s'intéresser à l'artiste. Et on n'a que ces quelques minutes-là pour le faire. Donc c'est vrai qu'on est dans un milieu très restreint, mais en même temps, on a quand même énormément d'organisateurs qui comprennent le fait qu'on est bénévole et qui justement jouent le jeu. Donc c'est quand même bien.
Alors vous couvrez une actualité musicale à Paris, en région parisienne, mais vous voulez aller vers d'autres horizons. Pour cela, vous allez intervenir dans des festivals.
Tout à fait. Mello Live, ça va faire 10 mois que ça existe, donc c'est vrai qu'il est très jeune, comme Odin, mais on arrive aujourd'hui, même si on n'a même pas un an d'existence, à être présent sur des gros festivals, tels que le Hellfest, gros festival métal, qui va se passer à Clisson. On va également être présent au CAF Fest à Beauvais. On attend la confirmation, mais ça devrait pas tarder pour être sur Essen en Seine, donc à Chamarande. Et puis des petits festivals également de région, comme le Carrière Saint-Roch à Lizarche, par exemple, et puis le Morsure Festival dans le 91. Il y a encore bien d'autres, j'espère, qui vont venir d'ici.
Est-ce que un jour votre webzine Mello Live pourrait devenir un magazine ou une revue papier ?
Ce serait un grand rêve. C'est un objectif, effectivement, qui pour l'instant est très lointain. Si j'arrive déjà à rémunérer mes photographes, ce serait merveilleux. Après, effectivement, devenir un magazine papier, waouh, j'y ai pas encore pensé, mais oui, ce serait top.
Je dis ça parce que, effectivement, la mise en ligne des supports de communication est, on va dire, plus facile. Après, il faut trouver une place, il faut toucher un large public, et évidemment, il faut avoir du résultat. Mais c'est vrai qu'on oublie un peu le papier. Il y a un retour aujourd'hui du papier, je trouve, de l'intérêt. C'est comme le passage, le retour au vinyle, au 33 tours. Mais il y a, à mon avis, un besoin aussi d'avoir le support version papier.
Alors, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a deux types de personnes dans ce milieu-là. C'est vrai que le retour papier, c'est quelque chose qui aujourd'hui commence à revenir un petit peu. Oui. Après, on a la chance de pouvoir maintenant avoir beaucoup de sociétés qui procèdent avec du papier recyclé et des choses écologiques. Oui. Donc ça, ce serait vraiment pas mal à faire.
Bon, en tout cas, l'adresse, si vous voulez en savoir plus et vous brancher sur le webzine, mellolive.fr, c'est aussi simple que ça. Merci, Émilie.
Merci à vous. Merci, bonne journée.